Canalem, on aime l'été.
C'est le jeudi 22. Ouh, il y a de l'énergie dans l'air
ben
déjà.
Oui, t'as même
il y a
commencé
des gens...
trop tôt.
J'ai commencé trop tôt, j'ai parlé par-dessus l'introduction. Mm-hmm. Kevin Breton, vous aurez peut-être reconnu ma voix et celle de Luc Fortin. On va co-animer cet épisode-là aujourd'hui.
On aime ça.
Qu'est-ce qu'il y a au programme à
On est en campagne!
On est en campagne électorale. Youhou! Ben, tu m'as devancé, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y a à mettre au programme aujourd'hui? On va évidemment parler de la campagne électorale. Est-ce qu'on peut déjà dire « bas son plein » alors qu'elle commence...
Bon, ça fait un an.
C'est vrai qu'ils ont l'impression que ça fait un an qu'on est en campagne. On va parler avec Linda Gauthier, directrice générale du RAPLIC, pour savoir un peu qu'est-ce que les partis proposent en matière d'accessibilité universelle, notamment dans l'émission aujourd'hui.
C'est vrai. Si, parce que la COFAN organise une rencontre politique, on va en profiter pour connaître le DG de la COFAN dans une minute. Mm-hmm. Je sais que j'aurais pu le dire après, tu sais, comme à rebours, mais c'est parce que les sujets allaient de pair.
Je suis bien d'accord avec toi, Luc, aussi à l'émission, ben, nos chroniques habituelles. D'abord, celle d'Annick Filion, bénévole aux voix de service, qui était aux voix de service l'année dernière sur les ondes de Canal M. Il y a Christiane Campagnan qui va venir nous faire une chronique toponymie histoire.
La salle, la Chine.
Oui, histoire de nous démêler entre la salle et la Chine.
Oh,
moi, je vais parler
de
Tokyo. Tokyo 2020, c'est quand même dans 2 ans déjà.
Oui, puis c'est en lien avec la Chine.
Tout ça et bien plus dans un instant à M l'été.
Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça. Prétendre que je suis. J'ai pogné à Saint-Denis.
Ah, elle a du swag, elle a de la fougue, cette fille, Lisa Leblanc. Déjà 6 ans, cette chanson, je suis pas un cowboy, tirée de son album éponyme.
C'est drôle qu'elle n'ait pas dit cowgirl.
Je sais pas, puis notre prochain invité, c'est pas un cowboy, mais il faut être un petit peu cowboy pour se lancer à la tête de la direction de la COFAN, un organisme de défense des droits des personnes avec un handicapé au niveau national.
Et il y a la cow dans le sang.
Il y a là, oui, effectivement,
oui, son nom, on va expliquer pourquoi.
C'est Claude Guimond. Félicitations tout d'abord, Monsieur Guimond, pour votre nouveau poste.
Ben, merci beaucoup.
On connaît bien la COFAN ici à Vuzevoix, à Canalem, évidemment. Mais...
La Confédération des organismes personnes handicapées du Québec.
Ça, c'est l'acronyme. Mais si on vous demandait, la première question, là, c'est quoi la COFAN puis à quoi ça sert?
La COFAN, vu que tantôt vous allez découvrir de quel monde je suis issu, il y a le C, les deux premières lettres de la COFAN qui sont Confédération. Donc, la COFAN, c'est une confédération d'une cinquantaine d'organismes autonomes, différents, intéressants. Et la mission de la COFAN, c'est de discuter avec eux, de se concerter avec eux pour, à chaque thème, à chaque sujet, arriver avec des points.
Un consensus.
Et après ça, que nous, à la COFAN, on puisse présenter au gouvernement, au maire, au mairesse. Donc, c'est ça, la COFAN,
pour
moi. Un
genre de porte-voix.
Oui, puis c'est une très belle organisation.
C'est souvent des choses intangibles, par contre. Je veux dire, ce sont des dossiers, mais on n'arrive pas... Lorsqu'on joue à un match de quelque chose, on gagne, on perd après 2 heures. Et non 2 ans ou 10 ans. Comment on se sent lorsqu'on est obligé de travailler des dossiers long terme comme ça?
Ah bien, moi je me sens bien, tout à fait bien, tout à fait à ma place dans ce poste-là parce que j'y crois, tout simplement. Ouais. J'ai une expérience derrière moi, de 25 ans d'implication dans le syndicalisme agricole. Okay. Et quand on parle de syndicalisme agricole, on parle de confédération, on parle de groupe autonome, on parle de groupe spécialisé. Donc, j'ai eu l'occasion, au fil de ma carrière, dans une ancienne vie, de bien apprivoiser ce style de concertation avec tout le monde, qui est très bénéfique. Mais oui, c'est certain, moi je suis peut-être prompt des fois, je veux avoir des résultats, mais aussi je crois vraiment qu'il faut prendre le temps pour certains sujets d'évoluer, mais aussi par contre, quand c'est le temps de trancher, bien on tranche, puis on passe à l'action, ça c'est clair.
En tout cas, il n'y a personne qui va mettre le feu aux granges puis qui va voler du sirop d'érable. Puis malheureusement, ça ne swing pas, ou heureusement, ça ne swing pas autant, mais ça prend du temps et il faut être très, très, très patient. Claude, vous le mentionniez, vous êtes issu du milieu agricole. Vous-même, vous avez travaillé longtemps sur une terre. Vous avez été député bloquiste de 2008 à 2011 dans Rimouski. J'ai envie de vous demander parce que on a mangé ensemble la semaine dernière, bon, il faut le dire, la COFAN organise une rencontre politique pour permettre aux différents organismes et à tous ceux qui s'intéressent de mieux connaître les intentions des différentes formations. Ça va se passer le 10 septembre, ça sera diffusé sur Canalem d'ailleurs.
Et c'est toi qui vas animer?
On sera là pour modérer tout ça. Donc, on a eu le temps de se jaser un peu. Long préambule pour dire une des choses qui me chicote un peu et qui me chicote toujours un peu. Il n'y a aucune limitation fonctionnelle visible, ni dans votre entourage, ni chez vous. Pourquoi vous ont-ils engagé?
Très bonne question, M. Fortin. C'est vrai que je suis, quand j'ai décidé d'appliquer pour postuler comme le poste de directeur général de la COFAN, je savais bien que j'étais une candidature atypique. Ça, c'est on s'en sort pas. J'ai toujours été atypique toute ma vie jusqu'à maintenant. Je suis rendu en âge assez, pas vénérable, mais avec pas mal d'expérience puis un chemin parcouru derrière moi. J'ai trouvé vraiment le conseil d'administration de la COFAN audacieux en prenant le pari de m'embaucher pour être leur directeur général. Ce que le consensus qu'on en est venu, puis où la manière que les gens du conseil d'administration ont pris leurs décisions, c'est que moi, j'avais un œil extérieur, c'est sûr, c'est certain. Je suis pas du monde des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Donc, un œil extérieur, mais aussi, je crois qu'ils ont bien aimé, malgré mon CV atypique. Il y a une ligne, il y a une ligne en continu dans ma vie qui est la défense des droits des personnes. Mm-hmm. Tout à fait. Moi, j'ai défendu des agricultrices, des agriculteurs, j'ai défendu...
Les droits des Québécois.
Des Québécois. J'ai défendu les personnes de la région du Bas-Saint-Laurent parce que c'est là que j'œuvrais au niveau de l'UPA. Donc, moi, les personnes ont toujours été au centre de ma préoccupation et de ma manière d'agir. Et bon, c'est dans ce sens-là que j'ai accepté le défi. J'ai proposé ma candidature. J'ai tout fait pour l'avoir, ce travail-là.
Ouais.
Et je remercie le conseil d'administration de la COFAN.
Bon, j'ai envie tout de suite de mettre quelque chose au clair au cas où j'ai fait... où je dois faire amende honorable. Je ne me souviens plus si c'était crémeuse ou traditionnelle comme salade de choux, mais l'impression que j'avais eue et que j'ai partagée à trois ou quatre personnes, un gars bourru qui peut mettre le poing sur la table, qui peut sacrer lorsque c'est le temps, mais dans les occasions où ça le demande, évidemment, qui est à sa place, qui est capable d'écoute, qui sait ce qu'il ne connaît pas, et qui prend le temps de vouloir en savoir davantage, un gars qui va être obligé de prendre un certain temps avant de se familiariser, non seulement avec les enjeux, mais avec les petites particularités de chacun des DG ou présidents de ces organismes membres. Où ai-je erré et où ai-je raison?
Bien, j'oserais dire... Ben, là, vous parlez de moi, c'est un peu gênant, là, mais j'oserais dire, M. Fortin, que vous avez raison sur toute la ligne. Oui, oui, vous m'avez bien cerné lors de notre dîner la semaine dernière.
Okay. Salade qui crémeuse traditionnelle.
On était au
Saint-Hubert. Saint-Hubert, okay.
Bravo.
Je me demandais où ta question s'en allait.
C'était crémeuse, finalement.
OK.
Hey, mais M. Guimond, là, le temps file, mais on a parlé de vous, mais là, j'aimerais savoir, si on se tourne vers l'avenir, ça va être quoi les dossiers principaux que la COFAN et vous allez mener de front dans les prochains mois, les prochaines années?
Bien, c'est juste pour vous donner une idée, tantôt, M. Fortin parlait de notre activité électorale du 10 septembre.
Uh-huh.
On l'a organisé avec quatre thèmes. Ces quatre thèmes-là sont au cœur vraiment de ma vision de ce que devraient être les prochains mois, les prochaines années. Il y a tout l'aspect du numérique et de l'accès à l'information. On est en 2018, là. Faut vraiment aller en avant dans ce niveau-là. Il y a toute la question de l'emploi. Moi, l'histoire de Walmart ce printemps, là, c'est justement quand je suis arrivé à la COFAN. C'est en plein...
Belle entrée en matière.
Ouais. Très belle entrée en matière. J'ai trouvé ça tellement un débat qui a vraiment été important dans le temps de Pâques. Les médias s'en sont servis malgré tout. On a avancé, on a lu des lettres ouvertes. C'était vraiment... Il y a un filon vraiment important à ce niveau-là. L'accessibilité, bien là, ça, on s'en sortira jamais. Il y a tout à faire. Il y en a de fait, mais il y en a encore beaucoup à faire. Puis la santé, soutien à domicile, ça, je sais que c'est vraiment une préoccupation des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Et aussi l'éducation. Moi, je veux qu'on avance, qu'on développe, qu'on fouille au niveau de l'éducation pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles puis la réussite scolaire de ces gens-là. Donc, oui, c'est à peu près ça.
Moi, ce que je trouve intéressant dans votre profil, M. Guimond, c'est que, ben, de par votre expérience politique, vous avez nécessairement des liens avec les femmes et les hommes politiques. Puis un des problèmes, souvent, avec la défense des droits des personnes handicapées, c'est qu'on avait de la misère à faire sortir nos messages pour aller les porter vers des personnes qui sont capables de prendre des actions puis à faire des changements. Est-ce que vous pensez que par votre bagage, par votre connaissance des systèmes parlementaires de l'Assemblée nationale, vous allez être capable concrètement de faire passer, de donner le goût à des législateurs de passer des lois qui vont améliorer la situation, que ce soit pour le numérique, pour la santé, pour l'accessibilité?
Mais tout à fait. Moi, j'oserais dire, dans les parlements, là, on a encore deux parlements, je suis comme un poisson dans l'eau. Un des faits d'armes de ma carrière de syndicaliste, de politicien, puis de travailleurs dans la défense des droits, ça a toujours été cette capacité-là, cette... que j'avais de parler avec les politiciens, de faire comprendre nos messages. Je suis bon en relations publiques, tout parti confondu, malgré que, tantôt, M. Fortin l'a dit, malgré que, oui, j'ai des allégeances, mais moi, je suis à l'aise avec tous les partis politiques, avec tous les politiciennes, politiciens, puis je sais que quand on a des dossiers comme ceux que nous avons présentement à la COFAN, quand ils sont bien amenés, quand ils sont bien articulés, je suis convaincu qu'il y a moyen de faire entendre notre voix.
Petite pause musicale. Claude Guimond reste avec nous. Il va peut-être être tranquille. Il va peut-être... En fait, on voulait lui donner l'occasion de s'immiscer dans la petite discussion qu'on aura avec Linda, Mme Gauthier, qui va nous parler des plateformes politiques. Et si les gens ont pensé aux ceux et ceuxelles qui ont des limitations fonctionnelles. Wow!
De mes habits, de mon joli bleu canari, sur toutes mes bouteilles de vin rouge, on a collé des étiquettes sur tout ce qui bouge. Les films, les bouquins, les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup, j'ai trouvé mon filon. Sur la planète, je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bleu, 100% naturel, Guillaume a des graines de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, y'a qu'à voir. Pose-toi sur ma branche, renifle un pétale. Toum, 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 tourne le bouton dans la radio. Toum, 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 que du mauvais son dans ton auto. On a combattu la malbouffe, mais la musique de fast-food. Faut qu'un justicier lui barre la route. Pas de doute, il faudrait un super-héros, une sorte de Nicolas Hulot, avec trois lettres sur son B-I-O. Je suis le chanteur bleu, 100% naturel. Des graines de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bleu, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Soul, comme l'arbre. Les pieds dans la boue, mais en éventail. Comme les chauffeurs et les petits beurs, maintenant y'a les chanteurs. Je suis le chanteur bleu. Je suis le chanteur bio.
Le titre, chanteur bio, et l'artiste, Soul.
Salut Linda Gauthier.
Ben.
La dernière fois qu'on s'est parlé en ondes, Linda, vous étiez présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Là, vous êtes directrice générale. C'est une démotion ou une promotion, ça?
Ben, c'est une promotion, okay. Voyons. Okay. Bonjour, Kevin.
Hey, salut, Linda. Je suis content de te parler. Est-ce qu'on entre dans la période de l'année la
Claude
plus...
Claude est encore là, Linda,
oui,
en passant.
On a aussi Claude avec nous en
Guimond.
Studio.
Bonjour, Linda.
Claude. Bonjour. Oui.
Linda, est-ce qu'on entre dans la période de l'année qui est la plus excitante pour le rappeler qu'en ce moment avec la campagne électorale?
Ben, je dirais oui. La plus excitante, mais la plus épeurante aussi, tu sais.
Mm-hmm. Ça va être quoi votre devoir au rappeler pendant les prochaines semaines?
Ben, écoute, il y a un journal qui nous a demandé de faire le tour des locaux électoraux.
OK.
À Montréal, quand même, parce que dans la province, on n'aura pas le temps. Mais à savoir, évidemment, est-ce que c'est accessible ou pas.
Ouais. Ça, puis tu sais, Linda, moi-même, j'ai souvent dénoncé publiquement des locaux électoraux qui étaient inaccessibles, qui avaient une petite marche à l'avant. Puis je comprends que la symbolique, elle est très forte, parce qu'on veut que ce soit ouvert à tous les citoyens. Mais, tu sais, ultimement, là, entre toi et moi, là, est-ce que c'est vraiment, ça devrait vraiment être la chose sur laquelle on porte le plus d'attention pendant une campagne?
Ben, je te dirais pas vraiment la chose, mais c'est parce que, tu sais, il faut que ça soit parce que si on a des questions, si on a des enjeux qu'on veut aller relancer nos élus locaux, puis tout ça, ben comment on fait, tu sais?
Ouais.
On va leur coller ça sur le bord de la porte, non.
Oui, ouais, ouais, je comprends que la symbolique est forte, là.
Effectivement. Mm. Fait que je pense que ça commence des fois par des petits pots, hein, avant de se rendre. Pour nous autres, ça, c'est très important. D'ailleurs,
mais si c'est accessible le 1er octobre, mais que tous les ralliements d'ici au 1er de chaque formation ne le sont pas, on n'est pas plus avancé.
On n'est pas plus avancé,
ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Tout à fait.
Qui dit quoi en termes de handicap, Linda, jusqu'à maintenant?
Ben écoute, pas grand-chose, hein, je vais te dire. Ceux qui disent le plus, non. C'est sûr que là, si tu m'as demandé, mais moi, je vais te dire les vraies affaires.
Ben, c'est pour ça qu'on t'a appelé.
Québec solidaire, c'est eux autres qui disent honnêtement le plus. Mm. C'est eux autres qui ont le plus d'engagement, mais c'est eux autres qui vont être les moins sûrs qui vont être élus.
Oui,
ouais. Ouais, parce que tu peux nous rappeler, c'était quoi les derniers... Ça fait pas longtemps là, que Québec solidaire a présenté certains engagements pour l'accessibilité. Mmh. Est-ce que tu peux nous les rappeler rapidement?
Oui, notamment, OK, l'adoption de la langue des signes québécoise. Mmh. OK, que ça devienne... que ça soit homologué comme étant une langue officielle au Québec. Ensuite... une loi sur l'accessibilité, une loi cadre sur l'accessibilité universelle. Et puis, bon, c'est ça. On parlait qu'il y avait déjà une loi sur l'accessibilité, mais qu'il n'y avait pas de mordant. J'imagine qu'on voulait dire la loi assurant l'exercice des droits là, qu'il y avait pour... C'est ça. Mais tu sais, c'est plate. Ils ont quand même 123 candidats. Ça parle beaucoup, ça veut en masse. J'ai aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, ça me fait un peu peur parce que ils seront probablement pas...
Ben, pour ce scrutin-ci...
Ouais,
là, c'est... maintenant, si on a la proportionnelle, peut-être que leur voix sera plus forte éventuellement.
On le souhaite.
J'ai envie, Linda, de poser la question à propos de la loi cadre. Est-ce que tu sais, puis tiens, Claude, vous avez le droit de ne pas le savoir parce que vous n'êtes pas ici depuis longtemps, là, ici étant dans le milieu de la déficience physique, mais est-ce qu'il y a consensus dans le milieu sur le désir d'avoir une loi cadre au Québec?
Je penserais pas.
C'est ça, hein? Fait que on peut penser, bon, c'est bien que la formation politique le propose, mais est-ce qu'on la veut? Pas individuellement, mais collectivement. En tout cas, je pose la question.
Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais.
Mais juste pour bien, tu sais, moi-même, je vois d'un bon œil là, une loi cadre sur l'accessibilité.
Bon, regarde les dons qui se mouillent.
Semblable à ce qu'on peut voir aux États-Unis avec le ADA puis en Ontario. Mais notre bonne collègue, Christine, qu'on connaît tous, Christine Rousseau, avocate en droit de la personne, elle prêche beaucoup par la Charte des droits au Québec qui, à son sens, à ses yeux d'avocate, possède tous les outils pour faire respecter les droits des personnes handicapées.
Ben oui.
Linda, qu'est-ce que la loi emmènerait de plus que la charte?
Ben, écoute, pas grand-chose, puis je suis bien d'accord avec Christine par rapport à ça. Mais c'est que la charte, c'est une mal-aimée, elle est mal connue. Il n'y a personne qui pense... Il y en a qui s'imaginent c'est quoi ça, la charte, au juste. C'est quand tu penses que la majorité de la société, en fait, la majorité des personnes pensent que le code de construction a préséance sur la charte, puis en quelque part, c'est souvent vrai parce que les arguments font en sorte que c'est ça. Elle n'est pas assez connue, cette charte-là.
Oui, personne ne l'utilise vraiment par leur applique.
Non, ben c'est ça. Puis c'est comme une charte de recommandation, là, tu sais. Fait que... C'est bien plat.
Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait que 3 candidats en situation de handicap dans le scrutin 2018? Je suis pas certain que dans les fichiers de candidature, on ne pose pas la question.
Non.
Donc, ça se peut qu'il y en ait... Je sais que Québec solidaire, pour avoir vu ça dans les journaux, ont présenté, disons, 3 plus, parce que Benoît Racette ne semble pas toujours compter comme personne handicapée. Sinon, il y a une Camille, il y a un André, et il y a une...
Oui, c'est ça.
Je me rappelle
c'est Linda
Camille Saint-Laurent, André Vincent et Lucie Maillé. Moi, je veux vous parler de Camille Saint-Laurent.
OK.
Belle petite fille, 23 ans, tout ça. Bon, écoute, elle est de Montréal-Nord. OK. Elle est candidate dans Marguerite Bourgeois, La Salle. Il n'y a pas un chat qu'elle connaît, puis je suis sûre qu'elle connaît pas beaucoup de gens, là. Il y a 35 000 portes, là, dans Marguerite Bourgeois. On s'entend-tu? Moi, j'ai comme l'impression que Québec solidaire l'a mis là comme, tu sais...
Pour faire une tête d'affiche, mais que...
Ben, Okay. Je trouve ça un peu. Ça, je trouve ça plat.
Parce que c'est, si je me trompe pas, c'est un château fort libéral. Peut-être que l'expression est un peu galvaudée, mais.
Ben oui.
Est-ce que c'est bien ça, M. Guimond?
Oui, c'est
peu de chance d'avoir une percée solidaire
ouais,
là-bas.
C'est pas mal,
ben, Hélène David là, qui se présente ah, ben, après, franchement. Non, non, c'est.
On vous a pas entendu beaucoup, M. Guimond, mais vous pensez quoi de cette idée-là d'une loi sur, sur l'accessibilité? Puis comme Luc l'a dit, là, on vous demandera pas de nous l'expliquer en long et en large parce que vous arrivez, là, mais c'est quoi votre première impression par rapport à.
Est-ce que ça jase un peu de ça, la COFAN?
Pour être honnête avec vous, vous l'avez dit, M. Fortin, tantôt, je ne m'aventurerai pas sur des sentiers que je ne connais pas. Mais par contre, j'ai beaucoup entendu parler de l'Ontario, des États-Unis. Puis aussi, tantôt, Linda en a parlé, il y a au Québec, quand on parle de loi, il y a la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Elle est là depuis 40 ans. On a fêté le 40e anniversaire dernièrement. Puis, je pense qu'il y a encore des briques qui sont pas toutes là dans cette loi-là.
Il y a eu, il y a eu une mise à jour il y a 15 ans de ça,
ouais,
puisqu'on l'avait plus.
2006, je crois, Linda
oui,
me corrigera. Mais bon, on a une loi qui est là. Puis, je l'ai lue. Honnêtement, je l'ai lue quand j'ai fait mes devoirs. Mais il reste beaucoup, comme je le disais, beaucoup de briques encore à
mais il
n'y
a pas de coercition. Il n'y
a pas de coercition. Puis, oui, c'est ça. Mais... c'est là qu'il faut continuer le travail, puis c'est là qu'il faut être patient. Oui, je sais, je suis bourru, des fois je suis impatient.
Ah, on aime ça, Claude.
Mais c'est ça. Mais il faut prendre des décisions. Il faut avancer.
La dernière fois qu'il y a eu un scrutin, tu y participais, ça te démange-tu? Même si c'est pas municipal, est-ce que...
Ouais, bonne question.
T'sais, tu vois les trois personnes handicapées, là,
Non.
Non, OK, t'es bien chez toi.
C'est la seule chose que je souhaite, OK? Parce que, tu le sais, je suis humble, je me prends pas pour un autre du tout. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de défauts, énormément, mais je sais ce que je sais, OK? Puis, en tout cas, je me dis que les personnes qui sont là, les personnes en situation de handicap, j'ose espérer qu'ils sont pas là juste pour dire, gars, nous autres, que, tu sais, que le parti ne les a pas appelés ou qu'ils n'ont pas, tu sais, qu'ils ont pas accepté de les investir, en fait, juste parce qu'ils sont handicapés. Ouais. J'espère qu'ils ont quelque chose à apporter, puis j'imagine.
J'en connais 2 sur 4, et ce ne sont pas des marionnettes ou des faire-valoir, ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Ouais.
Moi, je voulais vous parler de Marilyn Picard.
Malheureusement, il va falloir mettre ça. Parce qu'on entend déjà le violon et la guitare qui nous dit qu'on s'en va à la pause.
Écoute, ça sera pour une autre fois.
On va te reparler, Linda, c'est sûr.
Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, et bravo pour la promotion.
C'est gentil.
Merci, M. Guimond.
Bonne journée, messieurs.
Le plaisir, merci beaucoup à vous deux.
Oui, Claude Guimond vous laisse aller au bureau.
Oui, bonjour.
Et nous, on va causer. C'est musique, c'est Annick,
après
la pause?
Après, c'est moi qui parle de sport.
Ah, on parle de Toronto, Tokyo, yeah!
Vous écoutez Aime l'été.
Ah. Kevin, parce que j'ai du désordre dans mes sujets, je sais qu'on va te parler.
Ouais.
Mais on parle à qui juste après toi?
Ah bon, on va parler également avec, on va parler d'agriculture urbaine, également au menu
c'est
aujourd'hui.
C'est ce sujet-là qui va là. Parfait.
Puis,
avec les jardins de la Maison d'Aurore.
Exact. Il y a Annick Filion qui s'en vient aussi. Il y a Christiane Campagna. Mais avant, c'est moi.
OK.
Ça te va?
Ouais.
Ah, l'amour, ouais. L'amour, l'amour. Aimé d'amour. Et c'est Boule Noire, George Thurston. Et on reconnaît la voix de Nanette. Bravo, les garçons.
Tout à fait, tout à fait.
À vous.
C'est dans 2 ans et 2 jours que les Jeux paralympiques de Tokyo vont se lancer du côté du pays du soleil levant. Et Kevin, tu as tout à fait raison de nous dire que les Jeux paralympiques, pour une personne qui a un handicap, c'est tellement plus important qu'une pelletée de résultats sportifs et de médailles.
C'est bien plus que ça, c'est bien dit, Luc, effectivement, parce que les Jeux paralympiques, souvent, ça sert un peu d'accélérateur pour avoir des effets soit socio-économiques, technologiques ou politiques qui sont favorables, donc, à l'inclusion des personnes avec un handicap. J'ai quelques exemples en tête, là. Par exemple, ceux de Londres, lorsque ça a eu lieu en 2012, la station de métro la plus près du village olympique, où résidaient donc également les athlètes paralympiques, était inaccessible. Il n'y avait pas d'ascenseur à ce moment-là. Donc, ce que la société de transport à Londres a décidé de faire, c'est, ben, on va essayer de montrer l'exemple, puis pas avoir l'air un peu nono devant les yeux du monde, alors que tout le monde va nous regarder. Donc, on a investi l'équivalent de 83 millions de dollars canadiens pour rendre accessible Green Park à Londres.
Pour une station?
Pour une seule station. Écoutez, c'est
fou.
C'est plus que le budget de la STM en une année là, pour rendre accessible les stations de métro. C'est un exemple. On peut aussi penser, quand il y a eu des Jeux en Chine, les personnes handicapées là-bas, bon, c'était pas nécessairement les personnes qu'on mettait le plus en vitrine. On avait un peu tendance à cacher ce qu'on appelait encore des infirmes. Mm-hmm. Puis là, avoir des athlètes qui brillaient par leur performance, ben, ça a aidé à les remettre à la lumière, en fait, là, les faire valoir, les mettre en vitrine.
Est-ce qu'on peut penser que le mouvement continue? Est-ce que ce soit Rio, que ce soit Sochi, que ce soit, c'était Pyeongchang plutôt cet été, bon, Tokyo, est-ce que c'est une tendance qui se maintient?
Oui, c'est sûr que, tu sais, les opinions divergent dans ce cas-ci. Je sais pas si tu avais écouté l'épisode au Signal que j'avais fait avec la présidente du comité paralympique français. Ou peut-être une militante au bout du fil en France, qui nous disait « Oui, mais tu sais, on ne devrait pas attendre de construire des stades pour respecter nos droits et libertés. » Tu sais. Fait qu'il y a encore des critiques par rapport à ça, que les Paralympiques, c'est un peu un show de boucan, puis que plutôt qu'investir dans des amphithéâtres, on devrait plutôt investir dans le transport.
Oui, puis bon, moi, j'ai entendu dire que le métro, pas loin du village olympique-paralympique de Sochi, ça allait bien, mais ailleurs, dans la ville de ou dans le pays, là, c'était presque un gros zéro.
Des fois, ça, c'est juste le temps que la vitrine s'ouvre, puis après ça, la fenêtre se ferme, puis on retourne dans nos vieilles habitudes. Mais reste que néanmoins, c'est écrit clairement sur le site du Comité international paralympique que leur aspiration, c'est carrément de rendre la société plus inclusive. Pour les personnes avec un handicap, eux, ils utilisent le sport adapté, par l'entremise du sport adapté pour arriver à ces fins-là.
Et il y a déjà des partenaires commerciaux qui se sont engagés, du moins qui ont annoncé de belles choses lorsque vient leur participation pour Tokyo.
Oui, absolument. Ben, tu sais, Toyota, le manufacturier, ça fait longtemps là, qu'ils sont un commanditaire des Jeux paralympiques. On voit souvent les publicités à la télévision qui mettent en vedette les athlètes paralympiques. Il faut savoir que on connaît Toyota comme un manufacturier automobile, mais la compagnie est en plein repositionnement pour se faire connaître davantage comme un créateur de mobilité, au sens plus large. Dans ce sens-là, la compagnie a même investi là, des millions importants pour développer des nouvelles technologies pour mettre le fauteuil roulant à l'ordre du jour. Là, je pense que c'était 3 millions juste pour financer des recherches sur comment est-ce qu'on peut rendre le fauteuil roulant plus performant, plus efficace en 2018.
Donc peut-être un nouveau fauteuil éventuel.
Peut-être, oui,
ça pourrait. Donc, c'est pas juste comment placer le fauteuil dans un véhicule, c'est vraiment sur le fauteuil.
Le fauteuil en tant que tel, fait qu'ils ont plusieurs combats comme ça, mais un autre combat, c'est effectivement les véhicules, parce que pour Tokyo 2020, là, qui est la maison de Toyota, là, c'est une compagnie japonaise, on veut vraiment épater la galerie. Fait que ce qu'ils souhaitent faire, en fait, c'est rien plus ni moins que donner un accès inédit aux personnes handicapées à la mobilité. En fait, leur redonner l'accès fondamental au droit de bouger avec deux stratégies que je trouve particulièrement intéressantes. Tu nous as glissé un mot, la voiture. Il y a la voiture autonome, tout d'abord, qu'on entend de plus en plus parler. Ouais. Elle a un grand potentiel pour toi, Luc, là, parce que si elle devient commercialisée, facile abordable au sens financier du terme, tu pourrais te déplacer dans la ville puis pas être dépendant du transport à la T.
D'ailleurs, j'avoue que je suis un petit peu déçu qu'un accident aux États-Unis a ralenti tellement de programmes alors que... Je veux dire, combien d'accidents par jour
sont causés par des gens distraits. Mais tu vas être probablement content en 2020 de voir qu'on va sûrement voir des athlètes non-voyants être au volant de ces fameuses voitures-là à Tokyo, devant la population, devant le monde entier. Ça va être l'occasion de leur montrer que c'est une technologie efficace qui peut venir en aide à bien des gens. Puis, pour ce qui est les personnes qui ont un handicap physique, comme moi, Tokyo va aussi profiter de Tokyo 2020 pour faire connaître sa voiture Concept i, très, très futuriste.
Okay.
C'est doté d'une intelligence artificielle capable de comprendre le conducteur. Je sais pas trop encore c'est quoi leur plan avec ça, là. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant ça, c'est le fait qu'elle soit dotée d'abord de porte-papillons. Parce que tu sais, les fameuses portes latérales qu'on retrouve sur les vannes, là, les caravanes, il y en a de moins en moins. Puis moi, je suis dépendant de ça. Ma voiture, c'est une vanne avec des portes latérales pour pouvoir rentrer mon fauteuil roulant sans avoir besoin de passer ma main par-dessus une porte Fait que s'il y a moins ça, mais qu'il y a plus de portes papillons, ça va au moins nous permettre de continuer à avoir des véhicules adaptés pour les personnes en fauteuil roulant, dont le concept.
Mais c'est ça comment, les portes papillons?
C'est les portes qui rouvrent vers le haut. Il y a certains véhicules là, de Théo qui ont ça, là, les Tesla ont ça notamment. Les pédales traditionnelles sont remplacées par une manette.
Okay.
C'est sûr que ça va déstabiliser là, les habitudes du système traditionnel, mais pour des personnes qui n'ont pas accès à leurs membres inférieurs, ça va être vraiment très, très utile. On va aussi en profiter pour faire circuler pendant les Jeux de Tokyo un véhicule électrique hybride qui est adapté pour recevoir des clients fauteuil roulant. Peut-être de quoi inspirer nos amis chez Théo Taxi qui n'ont toujours pas de véhicule adapté pour recevoir des clients.
Mais quand tu dis un véhicule électrique hybride, c'est plus électrique, c'est hybride?
C'est à la fois électrique et à l'utilisation.
Mais n'est-ce pas la nature même d'un véhicule hybride?
Un hybride, c'est pas hybride, ça devrait être... Un véhicule électrique, c'est uniquement électrique. Un véhicule hybride, c'est aussi électrique et moteur diesel.
Donc, comment tu peux avoir un véhicule électrique et hybride?
T'as raison.
Enfin, bref.
Mettons hybride électrique diesel. Je l'ai dit comme ça.
Parle-moi de la France. Est-ce que eux, parce qu'eux, ils reçoivent la grande messe en 2022, est-ce qu'ils ont commencé à s'organiser?
Oui, comme je te dis, j'avais parlé à la présidente, l'ancienne escrimeuse à ce moment-là. Puis, il n'y a pas grand-chose. Ça a été beaucoup discuté, pas beaucoup d'engagement encore à date. C'est sûr que c'est un petit peu plus loin loin que Tokyo, mais ils ont été évidemment des spectateurs très attentifs lors de l'organisation sud-coréenne au dernier jeu. Le comité s'est notamment dit bien impressionné de l'installation rapide d'infrastructures accessibles, alors que la Corée du Sud partait de loin, elle était limitée en la matière avant. On parle notamment d'un énorme nombre de toilettes accessibles qui ont été installées un petit peu partout. Les trains à grande vitesse ont aussi été réaménagés pour offrir 15 places en fauteuil roulant plutôt que 5.
Là, on parle de Pyeongchang?
Oui, c'est ça, okay, en Corée. Okay. Mais bon, Paris pourra faire mieux que les 46 des 1765 bus qui assuraient la navette entre les sites qui offraient à ce moment-là en Corée. C'était très, très peu. Mais en tout cas...
On parlait de loi cadre tantôt.
Oui.
Il y en a une en France.
C'est vrai, ils ont une loi. Ouais.
Finalement, on se rend compte encore là qu'en 2022, il n'y a rien de garanti. Non. Puis,
ça a été repoussé, puis repoussé. Ad nauseam comme ça. Mais en tout cas, on n'aura pas juste les performances des athlètes à suivre, mais on va aussi suivre les athlètes, c'est sûr.
Mais d'autant plus qu'après ça, c'est le Canada. Non, c'est la Coupe du Monde de soccer.
Je pensais que j'avais oublié.
Non.
Peut-être Calgary. On parle des fois de Calgary 2026.
Ouais, mais déjà, la Coupe du Monde va nous donner l'occasion de recevoir plein de gens en mobilité réduite et donc peut-être une certaine adaptation.
Peut-être pour toi l'occasion de tester le système de la FIFA de l'audio description direct dans les matchs.
Surtout que le Canada va être qualifié. Même si c'est pas confirmé, on peut le présumer.
Super. Ben, c'était ça ma petite chronique aujourd'hui, Luc. T'as aimé ça?
Tout à fait. Oui, non. En fait, moi, j'aime le potentiel de changement. Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des choses à observer, mais qu'il y a peut-être raison d'espérer.
Oui, c'est ça. Puis dans tous les cas, même si c'est juste une progression qui dure le temps de la montée ou de la progression vers un événement, c'est déjà mieux que rien, tu sais.
Oui. Je veux dire, Montréal, une fois que les Jeux olympiques ont été terminés, on a continué à avoir l'extension du métro de Préfontaine jusqu'à Beaugrand. Je veux dire, ça reste. Donc, si jamais... Puis là, on peut présumer que tout ce qui sera bâti sera accessible... parce que les gens commencent à comprendre, ça va rester après.
C'est vrai.
Après on va causer agriculture urbaine.
Ben oui, on aurait peut-être dû garder M. Guimond.
C'est parce qu'il faut qu'il travaille, lui, là.
Je sais, il ne peut pas rester ici tout le temps.
Si j'ai choisi de m'enfuir, seul avec mon ombre au milieu de nulle part. Si j'ai besoin de ta, c'est pour écrire, faire enfin la lumière sur nos vieilles histoires. Yeah.
chemin, chacun ses plans. On peut changer de voile, mais pas le sens du vent.
C'était le groupe Raton Lover. Vous remarquerez le joli jeu de mots. Le sens du vent.
J'essayais de me dire, c'est-tu Tristan Malavoie? C'est-tu Marc Derry? Il y avait des similitudes, mais OK, Raton Lover.
Exact.
À noter. Hey, Luc, on avait presque commencé une bonne habitude lundi dernier en se disant qu'on allait remercier nos recherchistes en début d'émission. On l'a pas fait, mais là, je vais en profiter parce que Anne-Laure, notre chercheuse, fait une super belle job. Puis, oui, absolument, Catherine aussi. Puis, aime l'été. Je dis Anne-Laure parce que je sais qu'elle est particulièrement intéressée par l'agriculture urbaine, Anne-Laure. Puis, moi, j'anime aime l'été là, depuis quelques semaines déjà. Puis, j'en ai tellement appris sur ce domaine-là. Fait que j'en profite en plein milieu d'émission. Remercie Anne-Laure.
Marie-Annick Lapierre, c'est toi qui nous. Vous avez l'air d'une toi. C'est toi qui nous parles d'agriculture urbaine aujourd'hui. Tu es chargée de projets en agriculture urbaine pour la Maison d'Aurore. Et je disais, il me semble qu'Aurore, c'est tellement négatif dans la tête du Québécois. Et tu me disais, c'est parce que tu ne connais pas notre Aurore.
Oui, exactement. Bien, nous, l'Aurore, qui est à l'origine du nom de la Maison d'Aurore, c'était une femme très impliquée, très engagée sur le plateau de Mont-Royal, qui a vraiment, en 1976, commencé à créer un groupe ou un lieu pour que les citoyens puissent se rassembler, créer des projets ensemble, se supporter dans ce qu'ils vivent par rapport à leur milieu de vie, puis par rapport à leur quartier. Puis là, nous voici en 2018 là, avec toujours ce projet-là.
Donc, la Maison Aurore n'a pas uniquement une vocation d'agriculture urbaine, si je comprends bien.
Non.
C'est comme multivolet.
Exactement. Il y a plusieurs volets. Bien sûr, moi, j'ai le volet agriculture urbaine qui est là 6 mois par année. Sinon, il y a aussi le volet aîné. On fait beaucoup d'interventions auprès des aînés du quartier. Il y a le volet aide aux devoirs. Donc, plusieurs écoles qui ont un service d'aide aux devoirs grâce aux bénévoles puis aux personnes qui coordonnent le Château d'Aurore. Il y a aussi un volet action citoyenne. Donc, plusieurs actions politiques ou politisées, en tout cas, par rapport au milieu de vie puis au quartier. Puis, il y a aussi le volet alimentaire où il y a des cuisines collectives puis des grands repas communautaires tous les derniers jeudis du mois.
Qui n'est pas très lourd. Ben, tu sais que c'est un petit lien avec l'agriculture urbaine. J'imagine que vous faites des ponts entre les cuisines collectives et ce que vous récoltez lors des séances d'agriculture.
Ben, cet été, on a fait une activité de cuisine, cuisiner et conserver les verdures parce que là, au jardin, on mange du kale, de la roquette, du chou, nomme-en toutes les légumes-feuilles. Fait que oui, on a combiné les deux volets pour faire une super activité. Là, on était plein à craquer, c'était génial. Puis aussi, je veux juste, il y a le volet intervention individuelle que j'ai oublié de nommer, qui est un des plus, qui est aussi important, là, mais très sollicité aussi. S'il y a des gens des quartiers qui vivent des difficultés ou qui ont besoin d'avoir du support.
Quel genre de difficultés?
Ça peut être des difficultés au niveau santé mentale, par exemple, qui veulent parler ou vivre de l'isolement. Ils ont besoin d'avoir d'aide. Oui, c'est ça, du besoin d'aide aussi pour remplir des formulaires.
C'est vraiment large.
Ouais.
Je connaissais pas ça, mais c'est super. Puis là, le samedi 25 août, il annonce beau, il annonce 28 degrés, 30% de probabilité d'averse, donc ça regarde plutôt bien pour une activité en particulier que vous voulez venir nous présenter aujourd'hui à nous et à nos auditeurs.
Oui. Bien exactement, mais moi je veux présenter le projet de porte ouverte qu'on a. La température, ça va être vraiment l'image de toute la saison estivale où ça a été le soleil, les plantes ont poussé, ont fleuri, c'était de toute beauté, on a récolté. On continue toujours de récolter. Puis pendant les portes ouvertes, on va inaugurer un livre de recettes. Donc on fait des repas partage à chaque mois. Donc chacun apporte un plat, on partage tout ça. Puis là, on a regroupé. Il y a deux jardiniers là, qui étaient vraiment assidus sur la création de ce livre-là. Puis donc, on va faire le lancement de ce livre-là. On va aussi faire un atelier de bombes de semences, puis on va faire une visite commentée du jardin avec un petit goûter, tout ça, des meilleures recettes. Fait que très, très familial, très sympathique.
Mais il a l'air de quoi, ce jardin-là? Là? Si tu nous donnais une petite image visuelle, c'est-tu grand? C'est-tu petit? C'est-tu...
Bien, c'est sûr. Je dirais, c'est en arrière de l'église.
Coin, c'est sur Lanaudière, il faut le dire.
Oui, Lanaudière et Guilford. Mm-hmm. Donc là, on y a de trois gros arbres matures, vraiment proches de la rue. Puis il y a aussi, on entre dans le jardin. À votre gauche, il y a plus d'une cinquantaine, si ce n'est pas une soixantaine, de bacs à double fond. Donc c'est des bacs en plastique, il y a une réserve d'eau dans le fond. Puis là, c'est toutes nos tomates, nos piments. On a beaucoup de fines herbes qui poussent dans ces bacs-là. À gauche des bacs à double fond, on a de l'ail, puis on a aussi une butte de permaculture avec des courges qui poussent, puis à droite, on a des légumes feuilles, choux, kale,
etc. Permaculture?
La permaculture, ben, c'est un principe... je suis horticultrice de formation et non permacultrice, mais la permaculture, c'est vraiment une méthode qui prend soin de l'environnement, de la terre, le partage des ressources, puis toujours dans une idée aussi de valoriser ce qui est déjà existant pour un projet durable dans le temps.
À peu près ça.
À peu près.
C'est très bien résumé, je trouve. Hey, Luc, si tu me permets, je vais poser une petite colle à notre invitée, Marianne.
Je ne sais pas si elle va le permettre.
Je suis certaine que oui. Tu sais, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais je suis en fauteuil roulant. Je n'ai pas nécessairement le pouce vert, mais je vois de plus en plus des jardins qui sont surélevés pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de mettre la main à la pâte. Là. Je ne sais pas si dans votre jardin, c'est le cas, mais ma question, c'est pas tant ça. C'est plus de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas un jour tendre vers des jardins qui sont nécessairement surélevés, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même plus confortable à être debout qu'à être penché, agenouillé, tu sais.
Oui. Bien, effectivement, nous, moi, j'aime beaucoup le domaine de l'hortithérapie, donc c'est d'utiliser le jardin de façon thérapeutique. Puis, il y a beaucoup aussi de jardins de plus en plus dans cette lignée-là qui s'adaptent justement aux difficultés de mobilité pour certaines personnes. Nous, on a des personnes qui jardinent, puis ils ont une canne qui se déplace avec la canne. On a beaucoup d'aînés aussi. Puis, pour répondre à la question, nous, on n'a pas... Tu sais, on est quand même surélevé, c'est des bacs, mais c'est presque un pied et demi. Fait que c'est pas très surélevé. Mais on aimerait ça d'en bâtir vraiment à hauteur, là, après de la ceinture, pour vraiment pouvoir être assis puis jardiner, pour que ça soit confortable. Il y a beaucoup de personnes qui prennent une pause, qui s'assoient un peu, parce que c'est difficile sur le dos après un certain âge. Puis on voudrait aussi, tu sais, le rendre accessible à tout le monde. Mais... sachez que nos locaux sont accessibles. On a une rampe d'accès, on a un fauteuil roulant aussi à prêter. C'est des gens qui veulent, qui veulent venir participer à nos activités dans la maison d'horreur, autant pendant l'hiver que pendant la saison. Puis sinon, on pourrait même sortir le fauteuil roulant puis vous amener dans le jardin.
Mais est-ce que la porte ouverte de samedi, qui est de 13 à 16 heures, donc le 25 août au 4815 rue Lanaudière, est-ce que le but, c'est de peut-être ensuite espérer que les gens reviennent? C'est un peu la volonté non avouée ou...
Non, le but, c'est vraiment de faire rayonner notre jardin puis de le présenter, parce que c'est une source de fierté.
Okay.
Moi, j'ai une vingtaine de jardiniers qui se sont investis deux fois par semaine depuis le mois d'avril dans les semis, dans l'entretien, etc. Puis ils sont fiers de ça. Puis ils veulent juste inviter les gens à venir le voir puis parler un peu de la maison d'horreur.
Comme l'exposition d'art plastique à la fin de l'année.
C'est exactement un peu ça, la version jardin.
Puis en plus, c'est gratuit, on ne l'a pas mentionné, l'événement.
Oui, exactement, c'est gratuit. Oui.
Et le livre, lui,
oui.
Est-ce que les profits vont, je ne sais pas, là, est-ce qu'il y a une idée derrière la proposition du livre?
Non, en fait, nous, on va le mettre, on vend vraiment pour pas grand-chose, mais c'est en toute simplicité, parce qu'on veut qu'à chaque année qu'il soit amendé, c'est qu'on rajoute des recettes à chaque année. Fait que, fait que c'est un livre plus ouvert un peu.
D'où le titre « Super partage », chaque année, on ajoute, puis c'est les recettes d'un et de l'autre.
Oui, exactement. Puis on va le rendre gratuitement via PDF là, sur notre page Facebook ou sur notre site Internet aussi.
Okay.
Puis sinon, si les gens ils veulent appeler pour le commander, 514-527-9075. Puis ça, c'est le numéro de téléphone pour la Maison d'horreur. Fait que Si vous avez des questions sur n'importe quel service ou sur le jardin, porte ouverte, n'hésitez pas à appeler. Puis sinon, c'est ça, la version imprimée, nous, c'est simplement, on ne veut pas faire d'argent, on veut juste payer les frais de photocopie, fait qu'on, c'est symboliquement un 3$.
527-90-75.
Exactement.
514-48-15, donc, pour ce qui est de l'adresse civique rue Lanaudière, c'est samedi, entre 13 et 16h.
Merci, Marie-Annick.
Merci à vous.
Vous écoutez Aime l'été.
La première heure est déjà terminée, Luc, mais il nous reste encore une belle demi-heure à passer ensemble. Ça tombe bien parce que moi, j'ai commencé à avoir le ventre qui gargouille, j'ai faim pour aller dîner. Bon, on a plein de beaux sujets qui s'en viennent, notamment Christiane Campagnan qui va venir nous démêler la Chine et la salle. Puis on va aussi avoir Annick Fillion qui va être avec nous à l'émission.
Ça paraît racoleur, mais ce sont deux chroniques que j'aime bien. Je n'ai jamais rencontré Annick Fillion, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Normalement, je pense que c'est les vendredis que je l'entends.
Bon, il faut rester là.
Café, café, café noir. Café, café, café clair. Café, café, café noir. Café, café, café.
J'aime trop le café.
Le café, le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café.
Des tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Appelle-moi le smoke cappuccino. Je prends mon café avec mon verre de vino. Comme un prof de philo, je commande des grains au kilo. Puis je les range dans mon silo. Je suis sur le Moca Cola. Je prends des gros refills au Cora. Après je pars à la Maradona. Puis je fais des marathons à Donnacona. Je prends un nuage de lait. Un peu de sucre, yeah, c'est comme ça que je l'aime. Pas le choix, je prends un Tim Hortons. Puis je saute high comme Michael Jordan. Passe-moi la balle, ton truc c'est la balle. Je redeviens tribal, puis je chante plus mon visage. Prononce plus mes syllabes, mon dieu c'est formidable. Je suis comme sur un mirage. Le bateau de Sinbad.
J'aime trop le café.
Le café, le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café. Café, je prends un café.
Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. C'est bon, j'en ai essayé. Je pense que ma danse est belle.
Chaque jour, quand je me lève, je pars ma cafetière comme les gens célèbrent. La température de l'eau s'élève. Quand j'ai pas mon café, 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 yo, je m'énerve. Une crème, deux sucres. Dans le métro ou dans l'autobus. Dans mon backpack, j'ai ma carte au puce. Et une nouvelle tasse à café que je viens d'acheter au marché au puce. Yeah, Americano S. Presso dans l'avion, je demande un double à l'hôtesse. Mentalité zen, j'évite le gros stress. Y'a vraiment beaucoup trop de saveurs qu'il faut que je teste. Noisette vanille, café pour tes boys, pour ta belle famille. Yeah, je me spécialise. Je prends un café avant de partir et dès que j'arrive.
Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Café, café, café noir. Café, café, café crème. Ok, c'est bon, j'en ai assez. Là, je pense que ma tasse
est pleine.
J'aime trop le café. Café, trop le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
J'aime trop le café.
Le café, trop le café.
Je me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Café.
On aurait pu croire que le titre était un yeah, mais pas du tout. C'est J'aime trop le café. Un bel exemple d'une belle collaboration, c'est Sam Faye et Détrac. Et je vous invite à aller voir le clip, il est vraiment sympathique.
OK, parce que j'allais justement dire, il me semble qu'il ne gagnera pas un Goncourt avec un texte comme ça, mais toi, tu nous dis que c'est un bel exemple de collaboration.
Oui, oui, oui.
J'aime ça, c'est correct, ça, Jean-François. Hey, Christiane Campagna.
Oui.
Tu sais que je trouve que tu travailles bien.
Ben merci.
Je te le dis même quand on est sur Messenger.
Oui,
ça,
oui. Merci.
Fait que je suis chanceux d'être là le jeudi quand t'es là. Parce que des fois, t'es en vacances.
Ça m'arrive d'être en vacances. Ouais. Mais c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là.
Ben Christiane oui. Qui s'est développé une spécialité toponymie pendant l'été.
Ben mélanger la toponymie comme prétexte pour parler d'histoire, en fait. Et là, on va se pencher sur un cas un peu mêlant aujourd'hui. Hein. Il y a le métro La Salle est à Verdun. Les rapides de la Chine sont à La Salle. Mm-hmm. Il y a un parc La Salle à la Chine.
Ouais.
Ah, c'est, j'avais pas. Là, je suis étourdi.
Et tout ça, c'est dû au fait que les deux noms. Là, bon, Verdun, on abordera ça une autre fois. Mais La Salle et la Chine, ce sont deux noms de lieux qui viennent du même homme. Donc, en partie, pour démêler ça, je vais vous parler un peu de cet explorateur. Je vais aussi un peu vous parler de l'histoire de ces deux arrondissements-là devenus. Qui étaient auparavant des municipalités. Mais. Il faut commencer par le commencement. On va y aller avec les rapides. Parce qu'on ne peut pas parler de l'histoire, en fait, autant de Montréal que de la Chine, sans parler des rapides. C'est l'obstacle qui a stoppé Jacques Cartier dans son exploration du Saint-Laurent. Montréal a été fondé là où ça a été fondé, près de la pointe, sur la pointe à Calière, parce que c'était. Après ça, on tombait en portage.
Mm-hmm.
Et la Chine est quand même un des autres établissements à s'être développé rapidement dans l'île parce que c'était de l'autre côté du portage. On contournait les rapides à pied à l'époque où on utilisait des canaux d'écorce pour explorer le continent. Et même à partir d'un certain moment dans le commerce de la fourrure, on va amener les marchandises à la Chine en charrette, puis on va partir de la Chine pour explorer le continent.
Okay.
Il va même se développer des routes, le lower, qu'au 19e siècle, on nomme en anglais, donc le Lower Lachine Road, qui va devenir plus tard le boulevard La Salle.
Ah, puis c'est pour ça qu'il y a Upper Lachine Road.
Oui, il y a un petit bout de rue là, dans oui, NDG toi. Qui reste de la route d'en haut qui s'appelle le Upper Lachine Road. Il y a déjà eu un Middle aussi.
Ah ouais.
Mais c'est plus la rue Saint-Jacques, à peu près. Donc, c'est ce qui fait que cet endroit-là se développe, mais quand ça commence à se développer, c'est vraiment tout de suite de l'autre côté des rapides. Et notre ami René Robert Cavelier de La Salle, parce que c'est bien Cavelier.
Je sais, elle m'a repris hier.
Ben on l'entend et on le lit souvent, oui. Cavalier, mais c'est vraiment Cavelier son nom. C'est un Français qui a fait un bref passage chez les Jésuites, qui a renoncé à ses vœux parce que les Jésuites ne voulaient pas l'envoyer en Chine. Il était vraiment décidé à.
Hey, là, mêle-nous pas avec la Chine puis en Chine. Là.
Et pourtant, tout ça fait partie de l'histoire de notre homme.
OK.
Et finalement, il quitte la France pour venir rejoindre son frère, qui est prêtre sulpicien. Ça donne bien. Les sulpiciens sont les seigneurs de l'île de Montréal. Alors, il se fait donner une terre, la Côte-Saint-Sulpice, qui est comme un grand fief dans la grande seigneurie qui est Montréal. Ça va, en gros, aujourd'hui, en arrondissant des limites de Verdun à celle de Pointe-Claire. C'est vraiment immense.
Okay.
Mais notre homme a la bougeotte et beaucoup d'ambition, comme beaucoup d'hommes à l'époque qui rêvent d'être celui qui va trouver le chemin pour aller en Chine. Comme notre ami, c'est Joliette qui s'était fait faire un manteau, je me souviens plus, faudrait un manteau chinois, faudrait que je vérifie. C'est un petit peu loin dans ma mémoire. Mais dans le but d'être choisi pour être envoyé vers l'Ouest et de se joindre à des expéditions, il exagère un petit peu ses compétences, dont celle en langue amérindienne.
Il a menti sur son CV.
Oui.
On fait tout ça.
Exactement. Sauf que là, rendu là-bas, les gens s'en sont aperçus. Puis, je sais
ben
pas.
Oui, c'est pas caché, là.
un peu penaud, il a prétexté la maladie pour rentrer rapidement à Montréal avant le reste de l'expédition.
Un peu penaud.
Mais il reste.
Il était rendu où? Est-ce qu'on le sait?
Dans la région des Grands Lacs.
Okay.
C'est là qu'on était rendu dans l'exploration à ce moment-là.
Ouais.
Mais c'est déjà à ce moment-là qu'on se met, par ironie, à appeler ce coin de Montréal, ce coin de l'île, la petite Chine ou la Chine, le lieu dit la Chine.
Ça vient de l'ironie, ça.
On va l'écrire en deux mots très, très longtemps. Je l'ai vu dans des journaux du 19e siècle. Là, c'est seulement que, j'imagine, plus tard, là, pour la municipalité, on a voulu cesser la confusion avec le pays. Hein. Alors, on s'est mis à l'écrire en un seul mot. Alors, pour terminer avec notre ami La Salle, avant de passer au reste de l'histoire, il a quand même connu son heure de gloire. Il a été le premier à descendre le Mississippi jusqu'au Delta. Par contre, après, en voulant retourner par le golfe du Mexique, il s'est trompé dans ses cartes. Il avait mis la Louisiane un petit peu trop à l'ouest, peut-être encore dans ses ambitions de trouver le chemin pour la Chine. la vraie Chine. mais ça s'est mal terminé. Son équipage s'est rebellé contre lui. Il est mort assassiné. Ouais, ça se termine vraiment très mal pour la salle. Si on revient à son ancienne seigneurie, ça devient aussi une paroisse en 1676. C'est la troisième de l'île de Montréal. Les paroisses sont très grandes à l'époque. Il y en a une dans le coin de Pointe-aux-Trembles. Il y a la paroisse de Montréal et il y a celle-là qui couvre toute la seigneurie. Mais l'église, là où on la met, c'est là où est concentrée la population. Et c'est juste de l'autre côté des rapides. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez visiter le lieu archéologique de la première église de cette paroisse-là, qui est maintenant à la Chine, le lieu archéologique, lui, de la première, il est à la salle.
OK.
Parce qu'en fait, au début, la population se concentre là où se termine le portage. Mais à l'ouverture du canal de la Chine au 19e siècle, le canal se terminant un peu plus loin, les gens vont se concentrer dans ce coin-là. Et en 1865, la paroisse sera déménagée là. Là, l'histoire des municipalités au 19e siècle, c'est un peu complexe, mais La Salle est une municipalité distincte de la Chine depuis 1912. En fait, de la grande seigneurie là, de Cavalier de La Salle naîtra le La Chine contemporain, Dorval, ensuite La Salle, et puis il y a Saint-Pierre, qui est un cas particulier, qui a été détaché de la Chine en 1893, qui a refusionné avec la Chine en 2000, juste avant la grande fusion.
Là, c'est rendu un quartier, Saint-Pierre, ça, on peut plus dire
de l'arrondissement de la Chine, de la ville de Montréal. Oui, c'est ça.
Je ne sais pas s'il y a un sentiment patriotique pour les gens qui habitent Saint-Pierre et qui disent « Non, non, moi, j'ai une identité particulière. »
On se souvient que les gens de Laval utilisent encore le nom des anciennes villes devant la fusion des années 60. Donc, peut-être... je ne connais pas beaucoup de gens qui habitent à Saint-Pierre, malheureusement. On pourrait peut-être demander à notre amie Maria Vissi, qui est originaire de la Chine, elle le sait peut-être. Alors, dans la toponymie, on a ce petit bout, ce Upper La Chine Road. Le Lower La Chine Road est devenu le boulevard La Salle. Et comme les stations de métro sont nommées en fonction d'une rue à proximité, c'est ce qui explique qu'il y a le métro La Salle à Verdun.
Ouais.
Y a des rues de la Chine à Sherbrooke, à Saguenay, à Gatineau, Brossard et Grimbay. Des rues La Salle au Québec, il y en a tellement. Quand je suis arrivée sur le site de la toponymie là, du Québec, je n'ai pas cliqué sur tout parce que ça aurait été impossible.
Mais c'est toujours relié à M. Cavalier
souvent,
de la
Salle. Souvent, ça dit qu'on ne le sait pas. Non, je ne peux pas te le garantir. J'aurais passé l'été à cliquer sur le nom. Au Canada, il y a une ville de La Salle en Ontario qui est vraiment nommée d'après lui. Par contre, au Manitoba, il y a une rivière qui s'appelle La Salle, mais c'est vraiment dans le sens... en anglais, on l'appelle Stinky River. Alors, c'est pas dû à notre personnage, mais il est très présent dans la toponymie américaine, justement à cause de sa découverte du Mississippi, tout ça. Et il y a des comtés, des villes de La Salle aux États-Unis et des paroisses, et celles-là sont toujours nommées en l'honneur de notre fameux explorateur René Robert, Cavalier de La Salle.
Il
y a un cégep de La Salle, il y a le collège
de La
Salle.
Non, mais je veux dire, aux États-Unis, il me semble des fois, je vois dans la NCAA... au basket surtout, là, une équipe de La Salle qui joue contre et ils sont en première division.
Comment ils prononcent ça, LaSalle?
LaSalle.
En tout cas, je sais que le club école des Canadiens a failli s'appeler les Rapides de Laval. C'est une chance que c'est pas arrivé parce qu'on aurait fait...
Même pas le Rapide à Laval.
Ben, il y a des Rapides dans la rivière des Prairies.
Oui, c'est vrai, le petit barrage à Carillon.
Oui, mais où s'est noyé Huntsic et... d'où le nom du quartier, mais ça, on y reviendra aussi une autre fois. Mais en tout cas, La Salle est très présente dans la toponymie américaine.
Bon, ben merci beaucoup, Christian.
Ouais, ça fait plaisir.
Très instructif, comme d'habitude.
Thank you. Alors, c'était Bulería de Ribera de Caroline Planté.
C'est
une primeur, en fait, une semi-primeur. C'est en travail, c'est une de ses compositions. Elle est guitariste flamenca et ça n'a pas très joué là, souvent parce qu'elles sont encore en train de travailler sur la pièce, mais je ne pouvais pas passer à côté puis vous la présenter.
Une primeur sur Emleté. La voix que vous entendez, c'est celle d'Annick Fillion, ce qui veut donc dire que c'est l'heure de sa chronique habituelle.
Sans tambour. Ni trompette.
Luc, je pense que tu avais hâte de rencontrer Annick.
C'est vrai, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je te l'ai dit vite en rentrant, mais j'aime beaucoup ce que tu fais.
Quel excellent travail.
Non seulement c'est bien monté, mais en même temps, on apprend des choses sur des instruments que je qualifierais de souvent négligés.
Ou obscurs, en tout cas.
Ouais.
Ben, je suis bien contente. Et puis, on a commencé avec Caroline Planté et maintenant, on continue dans l'atmosphère, l'univers flamenco. Et j'espère, Luc, que je ne sais pas si c'est un aficionados des flamencos.
En fait, je trouve qu'ils sont très, très bons, mais je ne m'y connais pas. Je sais qu'on dit beaucoup de bien de la danse, du travail et tout, là.
Mais en termes musicaux aussi, c'est tout un univers. On fait seulement une incursion parce qu'il y en aurait tellement à dire. On pourrait passer une série complète sur le flamenco, mais j'espère que ça va vous donner le goût. Aujourd'hui, on rencontre Bob Benson, qui est un joueur de bass, mais un joueur de cajon aussi. Alors le cajon, ça a été amené dans l'univers flamenco par Paco de Lucía et ses musiciens, en fait. Et puis donc, je vous invite donc à découvrir le cajon si vous ne le connaissez pas.
En route vers Québec avec mon fils, nous allons retrouver mon ancien professeur de palmas et de cajon, Bob Benson. Le temps file comme nous sur la 40, et les souvenirs refont surface. Les cours qu'il avait donnés à mon fils, qui avait alors 7 ans et qui est aujourd'hui un ado.
Gauche, droite, droite, droite. Gauche, droite, droite, droite. Gauche, droite, droite. La gauche, droite. Gauche, droite, droite. Gauche, droite, droite. La gauche, droite. Gauche, droite.
Yes, c'est bien grand.
Droite, c'est le premier coup qui est super important. Ça fait 1, 2, ouais.
Ça n'a pas de bon sens.
Il m'a dépassé.
Ça va bien?
Oui.
Aïe, aïe, aïe. Les cheveux longs, puis tout, c'est hâte, Annick.
Je m'appelle Robert Benson, je suis né à Québec, ici, à Limoilou, Saint-Pascal. J'ai tout le temps voulu jouer de la musique, tout le temps. Je regardais un gars, je m'en rappelle qui en plus. Je le voyais jouer à tous les soirs ou deux soirs, je sais pas trop, c'est une émission. Salomon, c'est ça que je vais faire.
Comme vous aurez pu le deviner, Bob nous introduira dans le monde du flamenco à travers un de ses instruments, le cajon. Mais qu'est-ce que le cajon, au juste?
C'est des trucs, là. C'est vieux, c'est une boîte de bois. J'ai étudié avec Manuel Soler, c'est le danseur de Paco de Lucía. La légende du beat en Espagne a changé tout l'accompagnement. C'est lui qui a vu la boîte le premier. Mais ça existait déjà, ça fait longtemps.
Il y a tellement de dérivés à ça, là. Putain. Faut que le pied continue.
C'est une... une caisse de fruits des gars qui vidaient les bateaux. Ils attendaient en ligne avec leur caisse de bois, puis ils étaient assis. C'est sûr que tac, 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 t'as toutes sortes d'Africains, t'as toutes sortes de rythmes.
Cette caisse de résonance dans laquelle on y a collé des cordes de guitare à l'intérieur fait maintenant partie intégrante du flamenco. Bien que ce soit un instrument de percussion, le joueur de cajón ne sert pas à donner la pulsation, mais ajoute sa voix à la mélodie, tout comme le guitariste, les palmeros et même le danseur.
C'est pas là pour donner le beat. Fait que moi, je suis très mélodique, tu sais. La première affaire que je fais avec un gars que je connais pas, c'est « Chante-moi ton premier rematé d'entrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. » Là, lui, il fait ça. Oh! Si je le fais pas, je suis fait.
Ah oui! Parce que les danseurs font du rythme avec leurs pieds, mais également en frappant leur corps avec leurs mains. Le joueur de cajón doit donc accompagner le danseur, sans couvrir son rythme.
2, 10, 1 et 12. 1, 1. Ça, c'est jouer la toune et non donner du beat. Ce que tu tapes sur ton corps, tu le joues pas. Okay. Ça fait tout pas tiki-tiki-tiki-ta. Ton gain, c'est tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-
m'effréner. Mais il renferme plusieurs formes musicales, comme la buleria, la soleá, le fandango, le tiento, qui ont chacune leur propre structure rythmique et accent spécifique. Sauriez-vous compter le compas ainsi?
12, 1 et 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, 9 et 10, c'est la mélodie qui compte. Boum, ta, boum, ta, boum, boum, ka, ta, ka, boum, ta.
Après avoir assimilé les différents rythmes, place à l'improvisation. Car le flamenco se vit. Il vient de la rue, la complainte du peuple, de regroupements impromptus, de fiesta, où chacun peut s'exprimer en rythme, en chant et en danse.
La partition, c'est le passé. Non? Ça veut pas dire que tu sais rien, tu sais lire un journal. C'est juste ça. Ça sert à rien de comprendre la musique dans ce cas-là. T'sais. Tant qu'à moi, là, l'improvisation, la création, ton nom, ta personne, ta famille, prends tout ça. Non? Amène ça dans ta musique, et tu l'as déjà.
Hey, tu dis tout le temps, hey, sur 12. 7, 8, 9, 10, 11. Hey, tout le temps. 7, 8, 9, 10.
Un aléo, c'est une surprise, c'est pas un encouragement, là. Disait un encouragement pour qu'est-ce qui s'en vient. Non, non, non. Félicitations, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai le doigt à un beat de plus, un beat de moins. Toi, t'arrêtes à 7.
Oui. Mais... 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que là, je suis en avance.
T'entends un aléo, c'est plutôt parce que le gars, il a improvisé, puis il fait « Oh, là, t'entends le gars parler, là. » Paco, c'est ce qu'il parle. Et le bassiste, il fait une passe épouvantable, ça a fucké tout le monde dans le band. Lui, il est là. Le bassiste, il rit au bout. Paco, pendant qu'il joue, il est là. Je sais pas trop quoi. Aïe, aïe, man. Tout le monde sur le stage est en train de le féliciter.
Je quitte Bob Benson avec plein de rythmes en tête.
J'ai pas l'air. J'ai toi.
Et le goût de prendre un billet d'avion pour l'Andalousie.
Hey, toute la barre au complet, le fait.
Le cœur du flamenco.
Moi, c'est mon premier show flamenco. J'étais assis à Jerez. Zut! Les poils.
S'inclina!
Ça a passé, elle est là. As-tu senti ça? Je sais même pas ce qui s'est passé. La première fois que je vivais ça de ma vie. Sur le dos. Un gros gars, super gros. Aujourd'hui, je sais qui. Le fils de Terremoto de Jerez, la tornade de Jerez. Chanteur le power. Il était si premier rangé avec son gros sous-marin. Puis là, à 6, pas à 12. Et il est là, 6, derrière la bande. Hey! Toutes les matantes, les grands-mères. Je peux pas avoir rien de ça. Je suis à côté de ma tante, les fleurs, les affaires. Oh, si là, pas un mouchetin. Sans l'eau. OK? C'est la lumière à lui. Je sais pas ce que ça veut dire.
Ça vous donne pas le goût un peu de se rendre en Espagne, en Andalousie, Luc? Kevin?
Moi, j'aimerais tellement... Je sais pas si ça se peut, mais du flamenco avec des paroles en français. Tu sais, pour s'approprier, un peu comme pour métisser, parce que c'est vrai que c'est fabuleux. Premièrement, bon, Bob, on... J'ai pas tout compris là, ce qu'il a dit, là. Mais,
oui,
mais
il va dans le technique.
C'est fabuleux de voir... l'émotion que ce gars-là vit et partage, c'est contagieux.
Il est passionné.
Ouais,
hein?
Complètement.
Et il est passionnant. Il fait des liens. J'ai pas pu tout mettre, mais il nous fait des liens avec la musique populaire, du rock, la musique africaine, les métissages de rythme. On parlait de Paco. Quand il parlait de Paco, oui. Bien sûr, il parle de Paco de Lucía qui nous a quittés en 2014. Mais Paco a métissé aussi. Sa musique est rentrée un peu dans le jazz aussi, etc. Je sais pas s'il y en a en français, j'en ai pas entendu.
Ouais, moi non plus.
Mais il y a un festival flamenco qui commence bientôt, donc à Montréal, du 9 au 15 septembre. Et on a la chance d'avoir des compagnies de Jerez, de Cadiz, qui viennent, et avec toute la panoplie aussi des musiciens, des chanteurs, des danseurs de Montréal. Et on n'est pas... et ils sont très bons, là. On peut très bien se comparer. On est choyés. Et Caroline Planté, qui est là aussi, qui fait beaucoup de spectacles. Il y a plein de spectacles à aller voir. Je vous invite.
Et il y a Bob, notre ami, qui lance un CD aussi.
Exactement. Qui, lui, fait... pour son CD, ça va être un peu plus de fusion. Donc, il sort un peu du flamenco, mais il utilise le cajon, il utilise plein d'instruments. Alors, son CD qui sortira, j'espère, un peu avant Noël, pour pouvoir avoir des cadeaux.
Annick, pourquoi les cordes sur le cajon? Pour étant donné qu'on joue pas... C'est la petite vibration que l'on entend?
Exactement.
OK, OK, c'est ça.
Exactement. Okay. Ça donne une atmosphère.
Oui, oui, oui.
Annick, merci beaucoup. Rapidement, tu peux donner sur Internet si on veut réécouter chacune de tes capsules.
Ben, j'ai un WordPress. Si vous cliquez Annick Filion, wordpress.com.
OK, parfait. On va aller réécouter ça. Merci beaucoup pour ton excellent travail. Merci, Luc, pour l'émission. C'était super le fun.
On se retrouve jeudi prochain.
On se retrouve.
Qui est là demain? Là, c'est sûr. C'est Christiane et quelqu'un d'autre.
Merci à Jean-François à la mise
en
onde.
C'était le fun, les gars.
Merci à nos recherches.